Bonsoir. Bonsoir. Ça y est, ça marche, mais j'étais trop loin, c'est pour ça. Alors, je vais faire l'appel. Alors, de Voissel, Brigitte, présente. Capo, Bernard. Georgetti, Amélie. Présent. Alain, Jam. Marie-Hélène, Cabas, représentée. Steve, Chrétien. Présent. Béatrice, Rouquayrol. Jean-Pierre Depont, Bruno Barascude, représenté, Michel Boyer, représenté, Christian Crespi, présent. Valérie Gombert, représenté, Frédéric Guédan, présent. Eda Lagrifol, présent. Olivier Masson, représenté, Henri Paturel, présent. Christian Raymond, représenté, Sophie Rivin-Garrigue, Lydie Rochette, présent. Michel Thomas, représenté, Sabine Tourollier, Michel Bourrelli, présent. Myriam Gelsomino, représenté. Jean-Marie Prosperi,
présent.
Jean-Paul Bord,
présent.
Céline Gollin,
présent.
Donc le quorum est atteint, on va pouvoir délibérer. Ce soir, je vous propose de nommer comme secrétaire de séance M. Jean-Paul Bord, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors, l'ordre du jour de ce conseil. Donc, le premier point, c'est un point avec des informations. Vous l'avez lu. Ensuite, les délibérations. Et ensuite, les questions diverses. Je vais faire voter l'ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Premier point, donc, on va approuver le PV du dernier conseil municipal du 5 juillet. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, deux ou trois petites remarques. Dans le PV du Conseil sur l'embauche du chargé de communication, il était écrit qu'elle est issue d'une commune de la métropole. Or, c'est Madame Robert vient d'une commune hors métropole. Voilà. La décision du maire concernant la maîtrise d'œuvre pour l'étude de la faisabilité de la réhabilitation du château. Alors, nous avions également posé une question. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de réunion préalable concernant cette étude de faisabilité de la réhabilitation du château? Voilà. Remarquons par ailleurs, chers collègues, dans ce PV, que nombre de nos remarques n'ont pas été notées, même succinctement. Mais bon, ce n'est pas grave, puisque vous pouvez vous reporter au compte rendu sur notre site Montferrand Ensemble. Questions diverses. Groupe de travail sur la petite enfance. Madame le maire, vous avez indiqué que ce groupe de travail serait constitué et réuni dès que possible à la rentrée. En septembre 2023, avez-vous précisé? Or, nous sommes mi-octobre et aucun groupe n'a été formé, ni aucune réunion décidée. Or, je pense que c'est un point important, ce qui concerne la petite enfance. Merci.
Passons au vote. La petite enfance, ça va. Le groupe Vivons Montferrier pose la même question, donc je répondrai en questions diverses. Pour le reste, c'est Jean-Marie, c'est toi qui as fait le compte-rendu. Voilà. Donc, approbation. Donc, nous allons passer au vote pour l'approbation de ce PV. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, au niveau information. Donc, petit point rapide, mais je vous en ai déjà parlé à la réunion où nous nous sommes tous vus pour présenter le nouveau DGS, M. Johan Oussaï, et la nouvelle chargée de com', Mme Emmanuelle Robert. Donc, aujourd'hui, M. Oussaï est présent pour la première fois au conseil municipal et nous accompagnera autant qu'il le pourra. Et il est très, très motivé et le travail avance très, très vite. Donc, merci beaucoup. Et merci de prendre vraiment, d'être rentré dans votre mission vraiment très rapidement et avec beaucoup de volonté. Merci de nous accompagner pour cette seconde partie du mandat. On en a bien besoin parce que la première partie a été très compliquée. Donc merci pour de votre présence ici ce soir.
Madame le maire, oui. Juste un petit point. Puisque, bon, monsieur Sahi s'est présenté comme directeur général des services, mais précédemment, vous aviez dit responsable administratif et financier, oui. Donc...
Monsieur Oussaï va présenter le concours de directeur général des services, très certainement au cours de l'année 2024, il est très motivé, et nous l'accompagnerons autant que faire se peut. Donc aujourd'hui, il a comme responsable administratif et financier. Demain, il sera DGS. Mais il est beaucoup plus facile de dire DGS plutôt que responsable administratif et financier. Donc, dès qu'il aura le diplôme, il sera officiellement DGS. Officieusement, voilà, c'est notre directeur général des services puisqu'il gère tous les services de la mairie. La deuxième information, vous m'avez souvent demandé de vous faire un retour sur les conseils de métropole. Là, ce conseil de métropole du 3 octobre était intéressant, surtout sur un point, c'était le contrat territorial Occitanie qui a été signé en 2022 et qui dure jusqu'en 2028. Ce contrat territorial est un contrat qui se passe entre la région et la métropole. Il est intéressant. Pourquoi ? Parce que la région va donner 8 millions d'euros pour les projets communaux d'intérêt local. Et dans ces 8 millions d'euros, il va y avoir 4 millions qui vont être consacrés à la renaturation des cours d'école et 4 millions pour des projets pour des équipements sportifs, culturels ou patrimoniaux. Donc, nous, ça pourrait nous intéresser dans notre désimperméabilisation de notre cours, puisque notre premier projet n'est pas passé dans l'appel à projet, n'a pas été retenu. Donc là, on va redéposer notre dossier à la région et essayer de rentrer dans cette enveloppe de ce contrat territorial Occitanie. Ça, c'est la nouvelle la plus importante de ce conseil de métropole. Après, il y a eu aussi quelque chose d'important, c'est le plan Lumière lancé par la métropole. Ce plan Lumière, vous savez, concerne l'extinction de la lumière dans les différentes communes. Aujourd'hui, sur 31 communes, il y en a 12 qui ont complètement éteint la lumière. Complètement. Sur ces 12 communes sont absolument enchantées de cette extinction, n'ont pas vu le taux d'accident augmenter, n'ont pas vu le taux d'insécurité augmenter dans les villages, dans les communes. Donc la métropole aimerait bien que toutes les communes passent évidemment à cette extinction complète. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir peut-être réfléchir à ça. Je ne sais pas s'il sera utile d'éteindre complètement, mais peut-être qu'il faudra voir de diminuer encore, parce qu'aujourd'hui, au début, on nous a annoncé que la lumière était diminuée de 50%, ce qui est le cas aujourd'hui à Montferrier. Ils ont travaillé sur ça et ils nous ont proposé une diminution à 80%. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pas mal de Montferriérains qui vous disent que 50%, ils ne voient pas la différence. C'est remonté à beaucoup de réunions de quartier où les gens nous ont dit « mais 50%, on ne voit pas la différence ». Donc, on a pas mal de maires ont demandé si on pouvait aller au-delà de 50%. Et oui, ils ont fait du travail et aujourd'hui, ils peuvent nous proposer 80%. Donc, je me demande si nous n'allons pas d'abord passer à 80% pour voir comment ça se passe au niveau du village. Et puis après, avoir une réflexion peut-être sur les quartiers périphériques résidentiels. On pourrait peut-être éteindre, faire un test, voir ce que ça donne. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les communes qui ont éteint n'ont aucune augmentation des accidents et de l'insécurité. Ça, c'est démontré, et ce n'est pas que sur la métropole de Montpellier, c'est sur beaucoup de métropoles en France.
Donc, est-ce que la ville de Montpellier s'est engagée là-dessus ?
La ville de Montpellier, pour l'instant, s'est engagée sur tous les grands axes. Donc, la RD 65, si vous rentrez tard, la RD 65 est dans le noir. Elle est éteinte. Donc, ils ont commencé par tous les grands axes et certains quartiers résidentiels de Montpellier où ils ont éteint. Après, l'extinction, elle peut se faire de 1h à 5h du matin. Je pense que c'est le timing idéal, 1h, 5h du matin, alors qu'au départ, on nous avait dit 23h, 6h. Donc, 1h du matin, ça permet aux gens de pouvoir sortir, de pouvoir aller au cinéma, de pouvoir aller dîner chez des amis, d'aller à un concert, etc. Et de pouvoir rentrer avec de la lumière chez eux. Donc, 1h, 5h, ça me semble être quelque chose d'assez intéressant.
Les communes de la métropole qui ont éteint, c'est toute la nuit ou uniquement entre créneaux 1h, 5h ?
Ah non, 1h, 5h.
D'accord.
1h, 5h. 1h, 5h. Et certaines ont éteint à partir de 23h30. Celles qui veulent vraiment avoir une amplitude horaire d'extinction plus grande. Non, pas sur la totalité de la commune. Oui. Donc voilà, je pense qu'on pourrait faire des tests. D'abord, on va demander les 80%. On va descendre à 80% et on va voir comment c'est ressenti. Et si on se rend compte que ben, finalement 80%, les gens l'acceptent assez facilement, on fera peut-être des tests sur une extinction entre 1h et 5h du matin. Et puis on verra le retour. Si c'est positif, on ira. Sinon, ben, on ne le fera pas. Ensuite, petite nouvelle, c'est l'extension de la ligne 1, pardon.
J'avais juste une question sur le projet de rénovation de la cour d'école. Vous indiquez que le projet n'est pas passé dans le premier appel à projet. Vous avez un calendrier pour que ce soit redéposé, pour qu'on avance sur ce dossier ou pas du tout?
Là, nous avons eu le conseil de métropole le 3 octobre avec les contacts qui nous ont été donnés à la région. Donc maintenant, nous allons on va se rapprocher de la région, on va prendre contact avec ces personnes-là et on va voir avec elles quel est le timing pour déposer le dossier. Mais sachant que le contrat va jusqu'en 2028. Donc je pense que chaque année, il y aura des dossiers, des projets qui seront sélectionnés d'année en année.
Mais le premier projet était en dehors de ce contrat. Ah, c'était vraiment un projet destiné à un financement métropole pur.
Non, mais un financement région.
Région, pure région.
Okay. Et on n'a pas été sélectionné, hein, c'est bien ça. Hein. On n'a pas été sélectionné.
Nous, le financement région et agence de l'eau, et on n'a pas été
retenu. Ok. Donc ça, cet appel à projet n'est pas reconduit et ça passe dans le contrat où il y aura les deux en parallèle.
On a jusqu'en 2028. Donc chaque année, on pourra présenter des projets. Après, mais il faut tenter. Il faut tenter. Hein. Oui. Je me doute. Après, qui ne tente rien n'a rien. Hein. On ira et puis on verra bien. Hein. On verra bien. Donc après, petite nouvelle, c'est l'extension de la ligne 1 de tram jusqu'à la gare, hein, de Sud de France. Et ensuite, on a eu beaucoup de questions, enfin beaucoup de points sur le plan logement, qui est un gros point pour la métropole. Et dans ce plan logement, on nous a parlé de l'Office foncier solidaire, avec lequel je pense nous allons conventionner. Et par le biais de cet Office foncier solidaire, on va pouvoir avoir des logements où on mettra un bail réel solidaire. Donc Monsieur Depont fera une explication en commission d'urbanisme sur ce bail réel solidaire et on aimerait bien conventionner avec l'EFS pour pouvoir mettre ça en place dans la commune parce que ces BRS pourront compter comme logements sociaux. Et pour nous, c'est très important. Voilà. Ça, ce sont les grandes lignes du Conseil de métropole pour tous les autres points, toutes les affaires. C'est très lié à Montpellier et à la métropole, mais bon, pas à Montferrier en tous les cas. Ensuite, on a lancé un nouvel appel à candidature pour le poste de policier municipal et pour un poste de responsable du service technique et agent technique. Je vais laisser Monsieur le DGS vous dire trois mots.
Peut-être commencer par la police municipale. Un recrutement a été lancé. Pourquoi, si on compare l'effectif de la commune de Montferrier avec celui des communes aux alentours, on constate vraiment une réelle carence dans ce domaine. Le recrutement est prévu pour début 2024, en janvier. Concernant le technique, on a fait une analyse des besoins pour le service technique de la commune. Donc, nous avons lancé en premier lieu le recrutement d'un agent technique avec un profil plutôt polyvalent, qui pourrait surtout nous aider sur le domaine des espaces verts et qui aurait aussi des compétences d'électricien. Pourquoi ? Afin de réaliser des travaux, on va dire, en interne, dans le but, bien sûr, de faire des économies, on va dire, sur le pôle technique. On a reçu plusieurs candidatures qui seront étudiées dès la semaine prochaine afin de pallier rapidement au manque de personnel technique. En parallèle, on a lancé le recrutement d'un responsable coordonnateur des services techniques qui va assurer notamment la liaison entre la mairie et ses différents services et les agents du technique. Il sera en charge d'établir le planning de son équipe, toujours dans un souci de répondre à une meilleure coordination des travaux sur la commune. Le recrutement se termine également la semaine prochaine. À noter aussi que si ce sont des fonctionnaires qui sont retenus, il y aura un délai de mutation qui sera respecté et qui pourra aller jusqu'à 3 mois.
Merci. Ensuite, en information, il y a eu... Pardon ?
J'avais juste une remarque sur l'ensemble de ces recrutements. Est-ce qu'il y a eu un plan de financement relativement à ces recrutements ? Sur la commune, on a effectivement un budget au niveau des charges de personnel qui est particulièrement élevé, qui pose des soucis hein, aux finances communales. Ma question, c'est est-ce que l'impact de l'ensemble de ces recrutements a été mesuré en termes pluriannuels ? Puisque généralement, quand on recrute un fonctionnaire, on recrute quand même pour plus de 1 ou 2 ans, d'accord ? Est-ce qu'ont été mis en parallèle l'option recrutement et l'option prestation de service ? Je pense notamment pour tout ce qui concerne les agents techniques. Parce que la souplesse qui nous est accordée par les prestations de service permettent de différer certaines dépenses, etc., ce qui n'est pas toujours le cas, enfin, ce qui n'est absolument pas le cas, des charges de personnel. Est-ce que derrière ces recrutements, il y a eu donc une réflexion qui a été faite ? Enfin, nous, on ne l'a pas eu en commission finance. On n'a pas eu ces éléments-là en commission finance. Mais est-ce qu'il y a eu une réflexion qui a été portée ? Et je souhaiterais que ce point-là, on puisse s'y pencher réellement lors de la prochaine commission finance, notamment pour les conséquences sur le moyen et long terme que cela implique en termes de gestion municipale. Les charges personnelles représentent aujourd'hui quasiment 50% des dépenses de la commune. Voilà, je voulais juste alerter le conseil municipal autour de ça. C'est certain que quand on a des besoins importants, c'est intéressant d'y répondre par du recrutement, mais des solutions alternatives peuvent aussi exister.
Alors je vais te...
On a effectivement, on a tenu compte effectivement de ces embauches, et surtout on a vu les personnes qui partaient à la retraite et qu'on ne remplacerait pas. Donc il y a déjà une partie de ces charges qui sont prises, évidemment, pas tout de suite sur 2024, mais 2024-2025. Il y a plusieurs personnes qui partent à la retraite. Et donc on va effectivement avoir de ce fait des économies. Je rappelle quand même que M. Oussa, il avait un prédécesseur, donc ces charges existaient déjà. Il n'y a eu que la charge de com qui est nouvelle. Et on ne peut que se louer de toute façon de ces recrutements. Aujourd'hui, on sent quand même qu'au niveau du fonctionnement de la mairie, il y a un lieu certain. Hein, et de toute façon, il est certain qu'une grosse partie de la charge sera prise, si tu veux, sur les départs en retraite. Hein. Mais enfin, comme tu dis, on va faire une... Voilà. Mais c'était très difficile de le faire, si tu veux, tant que... On n'avait pas bien défini les postes, parce que moi, il faut que je me retourne vers Claudine pour avoir des bulletins, des calculs exacts des charges, pour pouvoir faire une simulation. Et effectivement, à la prochaine commission, je pourrai mettre mon pluriannuel à jour, et à ce moment-là, on pourra en parler de façon beaucoup plus précise.
Après, sur ces 3 embauches, on a le départ de Julie, qui était notre ancienne policière. Donc là, on recrute un deuxième policier sur le poste de Julie. On a le départ de Clément Crespi, on recrute sur le départ de Clément. Et on a en plus, finalement, le seul poste qu'on ait en plus, c'est le responsable technique. Et ce responsable technique, on en a absolument besoin parce qu'aujourd'hui, on a énormément de choses à faire dans la commune. Et Alain Jam, c'est pas son rôle, en tant qu'adjoint, de devoir gérer une équipe technique tous les matins, d'être à 8 heures au service technique pour pouvoir dispatcher tous les travaux à faire dans la journée. Donc c'est une urgence que d'embaucher quelqu'un. Donc c'est la seule embauche qui vraiment pourrait impacter notre budget de fonctionnement.
Après quand même celle de la chargée de communication, Oui. On est d'accord. Oui. Et donc c'est un choix que vous faites. Ça, c'est pas, je veux dire, à la limite, c'est un choix qui est fait à un moment donné ou à un autre. Mais ça correspond quand même au minimum, malgré tout ça, à deux embauches nouvelles. Oui. Hein. Donc on parle effectivement de départ à la retraite. Il ne faudra pas qu'au moment où les gens partent à la retraite, on nous dise, enfin, après, c'est vous qui gérez les réembauches, mais qu'on dise que ces gens-là manquent et qu'il faille les réembaucher. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas miser sur des départs futurs en embauchant aujourd'hui. Quand on embauche aujourd'hui, on augmente la masse salariale globale, on augmente le nombre de personnes dans la commune, et quelque part, au moment où les gens vont partir à la retraite, on le sait suffisamment dans la fonction publique, il y a un certain nombre de demandes qui sont sous-jacentes à ces départs à la retraite. Voilà, je voulais juste alerter là-dessus, et je pense que ça sera important qu'on discute, parce que le conseil municipal, on ne peut pas aller dans le fond des chiffres, mais qu'on discute sérieusement ça en commission finance, notamment en termes pluriannuels, parce que quelque part, sont des charges incompressibles, sont des charges qui augmentent plus vite aujourd'hui que beaucoup d'autres charges. Bon, on a le problème des fluides, etc., dans les charges générales, mais c'est conjoncturel. En moyenne, les charges personnelles augmentent beaucoup plus vite que les autres charges dans une gestion normale. Donc il faut en tenir compte dans le pluriannuel. Et quelque part, on a un budget très tendu, donc voilà. Je voulais juste apporter cette réflexion-là sur le fait que la réponse par une embauche n'est peut-être pas forcément toujours la seule possible.
Les prestations de services au service technique, c'est un peu compliqué. Chaque fois qu'on peut le faire, par exemple, quelque chose de tout simple, l'entretien du cimetière, aujourd'hui, on prend un prestataire de service. Mais on ne peut pas le faire sur tout.
Juste, si je peux me permettre, il y a vraiment la notion d'urgence, c'est-à-dire qu'actuellement, les agents techniques se limitent dans leur prise de congé. Ils ont des congés qu'ils doivent prendre, et par conscience professionnelle, ils restent, ils se disent non, ben non, finalement, tant pis, je ne les prends pas, etc. Donc nous, ça nous retarde, voilà, ça va être des problèmes pour nous, pour la gestion après du personnel, d'où l'urgence et la nécessité de faire ces deux recrutements.
Une remarque peut-être sur la typologie du recrutement. Vous avez indiqué que c'était ouvert aux fonctionnaires et ouvert aux contractuels. Peut-être que l'ouvrir uniquement aux contractuels, dans un premier temps, ça peut permettre aussi de voir venir plus facilement, sachant que quand on avait regardé il y a déjà très longtemps la typologie de l'AMS sur la commune, on avait vu qu'on était plutôt avec un nombre de fonctionnaires supérieur à ce qu'une commune de la même taille devrait avoir. Donc peut-être ne pas pousser au recrutement de fonctionnaires sur ces nouveaux recrutements.
On est obligé en fait de prioriser les fonctionnaires titulaires. Le contractuel, ce n'est pas la norme, c'est l'exception. Et si vous avez vu l'offre d'emploi, c'est bien stipulé que les contractuels doivent être une exception si on ne trouve pas, si je peux le dire, chaussures à notre pied pour ce recrutement-là.
Je vais juste faire une précision, moi, c'est sur les départs à la retraite, comme l'a très bien dit Bernard et Brigitte. L'année prochaine, on a quand même déjà deux agents au niveau des écoles qui vont faire valoir leurs droits à la retraite. L'année suivante, on va en avoir d'autres aussi. Il y a une réflexion qui va être mise en place aussi sur la nécessité de remplacer ou pas ces agents. On est plus sur ou pas que sur remplacer. Donc effectivement, c'est un transfert qui se fait dans d'autres services, in fine.
Mais Steve, on n'est pas sur les mêmes fonctions, donc il faut bien qu'à un moment donné, tu mettes à plat tous tes agents et que tu vois qui fait quoi et comment. Tu vois, oui, là, tu anticipes un recrutement par rapport à une étude de l'occupation et des tâches réparties entre les agents qui sera faite a posteriori.
Alors, ça c'est en cours. Le DGS s'est saisi de ce dossier. On y travaille ensemble, notamment au niveau des écoles. Après, avant même que M. Houssaï arrive, on avait fait le constat qu'il y avait trop de monde aux écoles. Donc, le fait de ne pas remplacer des agents titulaires qui vont partir en retraite au niveau des écoles, ça c'est presque une évidence quand on regarde. On a même presque pas besoin de faire cet audit-là. Enfin, on va le faire, bien évidemment, mais ça se constate très, très aisément aujourd'hui.
Autre information, le cahier des charges de la Devèze, du lotissement à la Devèze, je vais laisser M. Jean-Pierre Dupont vous en parler.
Alors, à la demande du président de l'ASL, la Devèze, nous avons, la commune a approuvé par arrêté les modifications de 2019 et 2023 de leur cahier des charges. Cette approbation est une obligation faite par le Code de l'urbanisme si le cahier des charges est plus restrictif que notre PLU, ce qui est le cas. Nous avons débattu de cela assez longtemps en commission d'urbanisme.
Ensuite, il y a un point sur les mesures compensatoires pour le contournement ouest de Montpellier. Donc, nous avons été contactés par l'ASF qui est responsable de mettre en place le contournement ouest de Montpellier, c'est-à-dire la jonction entre le périphérique et la 709 là, et la 750 pour Millau. Donc ce sont des voies qui vont passer par Saint-Jean-de-Védas, le rond-point de Genevaux, c'est-à-dire le rond-point de la Vérune, et qui va rejoindre la bifurcation pour l'autoroute A750. Donc ces 6 km de voirie vont être transformés en 2x2 voies à 90 km/h, et pour faire ces travaux, ils sont obligés de récupérer des parcelles pour la biodiversité, parce qu'ils ont tout un dossier environnemental à déposer. Ce dossier d'ailleurs sera déposé début 2024. Ils ont exactement 138 hectares à récupérer en besoins compensatoires pour cette création du COM. Donc ces besoins compensatoires, ils vont les chercher autour du projet. Donc ils ont fait une première couronne de 3 km autour du projet, et ça n'a rien donné parce que aux 3 km autour du projet, ce sont essentiellement des villes. Il n'y a rien comme parcelle à récupérer. Donc ils ont fait une deuxième couronne à 8 km autour du projet, et dans cette deuxième couronne à 8 km, il y a Montferrier, entre autres. Hein. Après, il y a Gravel, il y a Combaillot, enfin bon, il y en a énormément. Donc ils font le tour de toutes les colonnes, de toutes les communes, et ils viennent voir avec les communes, ils nous font des propositions sur des terrains, et ils voient avec nous si nous sommes d'accord pour leur vendre ou leur mettre en bail, en beau amphithéotique, ces terrains. Aujourd'hui, nous ne parlons que des terrains communaux et des terrains de la métropole. Les terrains privés, après, ils se débrouilleront avec les privés s'ils veulent récupérer des parcelles privées. Donc nous, on a quelques terrains communaux. Nous sommes, donc on les a reçus, on a vu leurs propositions, on va réfléchir. Parce que, évidemment, il y a des terrains, je pense qu'il n'est pas bon pour une commune de se défaire de tout son foncier. Donc peut-être qu'on en donnera une, mais on ne donnera pas tout notre foncier, même si le foncier qu'ils ont vu est un foncier inconstructible, sur lequel on ne pourra jamais rien faire. Mais il faut quand même le garder, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Donc voilà, on va réfléchir sur ces parcelles qu'ils nous ont proposées, et eux vont se rapprocher de la métropole, puisque la métropole a quelques parcelles dans la commune, va se rapprocher, l'ASF va se rapprocher de la métropole pour voir avec elle ce qu'il y a comme possibilité.
Et est-ce que vous savez si pour la métropole ça comporte la zone de Baillarguet ou pas?
Pour la métropole, il y a des terrains dans la zone de Baillarguet, tout à fait. Tout à fait, il y a des terrains dans la zone de Baillarguet, mais justement hier on avait une réunion avec une personne de la métropole sur l'urbanisme, et elle nous a dit que cette parcelle était réservée à la métropole et qu'elle ne pouvait pas passer en mesure compensatoire. Donc voilà, je pense qu'après ils vont se rapprocher, l'ASF va se rapprocher de la métropole et voir avec elle ce qui va pouvoir se faire.
Est-ce que on sait quels sont les types de projets qu'ils veulent mettre en œuvre? Parce que si c'est vraiment des projets liés à la biodiversité, c'est pas planter un arbre par-ci par-là, ça représenterait rien.
C'est pas du tout. Imaginons qu'ils récupèrent. Alors là, il y a une parcelle, par exemple, sur laquelle ils ont une vue, c'est la parcelle qui entoure le nouveau cimetière, tout le bois. Bon. Ce bois, s'ils le prennent, ils l'entretiennent, ça veut dire donc que tous les bois morts sont enlevés, ils font un léger débroussaillage, et du coup, ils permettent une meilleure évolution de la biodiversité, ce qui est logique. Voilà, donc eux, ils entretiennent les terrains, ils remettent les terrains propres si vraiment ils tombent sur des terrains qui sont perdus dans le massif. qui sont complètement envahis par les arbres, les buissons, etc. Ils remettent propre, mais ça ne va pas plus loin que ça. Ils n'introduisent pas de nouvelles espèces, etc.
Ils sanctuarisent.
Exactement, exactement. Et surtout, ils font en sorte que ces parcelles vivent, revivent, quoi, plutôt. Surtout quand on en a dans Baillargué, on a des parcelles qui sont en train de s'étouffer, hein, Baillargué. Hein.
Alors, à ce sujet, moi, j'aimerais bien vraiment qu'on essaie de relancer, j'en avais parlé en commission d'urbanisme, avec Michel, la commission avec Michel Thomas, là, j'aurais bien aimé qu'on essaie de relancer une association foncière agricole, parce que on avait été contacté...
Une association foncière agricole,
oui.
Et les AFA? Ah, mais les AFA, c'est ça?
Oui, oui.
Ah, mais c'est en cours avec la métropole, hein, ça avance.
Ah, c'est en cours.
Ah, ah je ne savais pas. Ça avance, mais ça prend un temps fou,
oui, parce
que cette association foncière agricole, ben moi, j'y tiens beaucoup, hein, donc je suis vraiment derrière. Et cette AFA est basée sur... On essaye de récupérer des terrains à l'évêché.
Oui.
Et pour avoir une grande AFA, justement, parce qu'on la mutualise avec Prades, et on voudrait avoir une AFA un peu plus grande sur Montferrier, mais les principaux terrains sont des terrains appartenant à l'évêché. Et donc le responsable de l'AFA est en train de prendre contact avec l'évêché, mais c'est très 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 long avec l'évêché.
Oui, de toute façon, on ne leur achète pas les terrains, on les met à disposition de l'association, c'est tout.
Exactement.
Ils ne les perdent pas,
mais
en fait. Oui, je comprends.
C'est très compliqué. Voilà. Absolument pas, il appartient au département, donc pour eux, ils ne veulent pas du tout regarder ça. Voilà, et le dernier point, on a mis en place une nouvelle procédure pour le prêt des tables et des chaises à compter du 1er octobre, parce que cet été, ça a été terrible pour le service technique. Il y a eu énormément de demandes avec des quantités de chaises et de tables monumentales. Donc le service technique ne s'en sortait plus, ce qui fait qu'on a décidé qu'aujourd'hui, il y aurait une demande sur un formulaire sur le site de la mairie ou au secrétariat de la mairie. Ce formulaire arriverait chez M. Guzman 7 jours au moins avant le début de la manifestation et les personnes prendront un rendez-vous le vendredi entre 8 et 9 au service technique pour récupérer elles-mêmes les tables et les chaises. Et les rendrait le lundi entre 8 et 9 au service technique et les rapporterait elles-mêmes. Et du coup, nous, on se libère de ça parce que cet été, je vous assure qu'ils ont passé leur temps un jour, deux jours, trois jours des fois à porter 100 chaises, 50 tables. Enfin, donc, ce n'est pas possible. Et comme on est quand même en effectif réduit au service technique, on ne peut pas passer notre temps à livrer les gens. Donc, les gens, s'ils veulent vraiment avoir des tables et des chaises prêtées, ils viendront chercher au service technique. Voilà, donc c'est la nouvelle procédure qui est mise en place depuis le 1er octobre. Voilà pour les informations. On va passer aux délibérations. Donc la première délibération, c'est bien sûr l'adoption du rapport de la commission d'évaluation des charges transférées, donc la CLEF. Et je vais laisser M. Capot y aller sur trois délibérations.
Alors, vous avez reçu avec l'ordre du jour le PowerPoint qu'on avait vu en commission CLET. Donc, il y avait, en dehors du vote des AC, il y avait 4 points. Il y avait une modification qui concernait les communes de Saint-Bresse et Vendargues. Donc, ça ne nous concerne pas. Mais bon, juste, c'est pour rappeler qu'il y avait 3 possibilités. Une première possibilité, c'est de rester statu quo comme ça avait été mis en place. Une deuxième possibilité, c'est celle que nous avions adoptée, nous, à Montferrier, c'est effectivement de pouvoir passer de 70% du montant de l'investissement à 100%. Donc, on avait pu, par ce biais, verser à la métropole 36 000 euros. Et donc, ce montant était bonifié, c'est-à-dire qu'on recevait en subvention de la métropole un montant à peu près identique. Et il y a la troisième possibilité, c'était de pouvoir... Alors par contre, oui, ce que j'oublie de dire, c'est qu'on conservait la comptabilisation des AC telle qu'elle était, c'est-à-dire que c'était tout en fonctionnement. Et la troisième possibilité, c'était de passer le montant qui était dévolu à l'investissement en investissement, mais alors là, il n'y avait pas de possibilité de bonification de la métropole. Donc les communes de Saint-Bresse et Vendargues qui étaient dans la première solution sont passées dans la deuxième, qui est effectivement la plus intéressante. Enfin, à mon avis. Hein. Le deuxième point, c'était le correctif sur les emprunts, mais ça ne nous concernait pas parce que nous, on n'avait aucun emprunt qu'on avait transféré à la métropole. Le troisième, c'est la Seine-Ivoirie et espace public temporaire. Alors ça peut présenter un intérêt pour les communes qui ont un très gros investissement à réaliser, parce que ça leur permet, au lieu d'avoir le fonds de concours qui est limité à 50% du montant de l'investissement hors taxe, de pouvoir provisionner 100% de l'investissement. Et quand, par exemple, une commune veut réaliser un investissement d'un million ou un million et demi, elle peut verser une assez... c'est pris sur le budget de la commune, hein, et de verser sur 3 ans ce montant-là et de réaliser les travaux. Alors donc, si, par exemple, nous décidions de faire un investissement important sur la voirie ou sur une place qui serait métropolitaine, ça serait une possibilité qu'on pourrait faire. Donc ça peut représenter un intérêt. Je rappelle qu'on a aujourd'hui, pour financer les investissements, l'AC investissement voirie qui est de l'ordre de 80 000 euros, on a le retour du FCTVA, c'est-à-dire le remboursement de la TVA sur l'année N-1, on a 20% de la taxe d'aménagement, puisque nous on encaisse 80% commune et 20% la métropole. Ensuite, je vous ai dit, on a les 36 000 et quelques qu'on verse, plus les 36 000 de bonification. Et voilà ce que représente ce qu'on peut investir dans l'investissement de la commune pour la voirie. Et évidemment, si on pourrait effectivement utiliser les fonds de concours et sur un investissement verser 50%, mais à ce moment-là, bon, effectivement, il faut que le montant qu'on a soit suffisant pour combler les 50% restants plus toutes les dépenses. Voilà. Après, la voirie espace public. Alors oui, ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu étonné. C'est que la métropole prend en charge le passage Hermès du polygone. Il faut savoir qu'en coût, ça représente 450 000 euros aujourd'hui. Donc, évidemment, ça ne va pas être gratuit pour Montpellier. Hein. Montpellier, le montant qu'elle est consacré au passage Hermès, va le verser en plus dans ses SACI, mais à partir de là, les années suivantes, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, parce que c'est d'un coût relativement important. Voilà, donc voilà les points qui ont été débattus, et après, il y avait effectivement le vote de l'AC. Alors, les AC n'ont pas bougé, hein. On est toujours pour cette année à 634 170, donc je rappelle qu'il s'est constitué du transfert de la taxe professionnelle pour environ 250 000 euros, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand la taxe professionnelle a été transférée à la métropole, en contrepartie, nous avons reçu la part ménage qu'encaissait la métropole. Hein. Donc, il y a eu une compensation. Cette compensation s'est avérée plus importante pour nous de recevoir la part des impôts ménages que nous, ce qu'on a transféré. Donc, il y avait un décalage de 250 000 euros. Et chaque année, on compense les 250 000 euros. Ça n'a plus bougé depuis. Je ferai, comme je le fais chaque année, une remarque. C'est qu'aujourd'hui, nous, en taxe professionnelle, ben, dans ces deux taxes professionnelles, c'est la CFE, et donc elles ont très peu augmenté sur Montpellier. Par contre, les aides pour ménages ont fortement augmenté. Donc aujourd'hui, on peut dire que malgré qu'au départ, on soit pas perdant, mais que ça nous était défavorable, aujourd'hui, si on refaisait le calcul, je suis sûr que ça nous serait encore beaucoup plus important. On aurait beaucoup plus à verser à la métropole. Voilà. Donc dans ces AC que nous versons pour les transferts de compétences, ça représente 384 000 euros. On a 287 000 euros pour le fonctionnement et 97 000 euros pour l'investissement, dont 81 411 pour la voirie. Alors, vous le savez que, je l'ai déjà signalé, qu'il est fortement question de revoir les ACI, les AC fonctionnement. C'est en cours. Monsieur Hussein est allé à une première réunion, donc on commence à voir poindre un petit peu ce qu'il souhaiterait faire, mais on va attendre parce que je pense que ça va beaucoup remuer dans les communes et que pour l'instant ils ont lancé le ballon, mais que je pense que d'ici le moment où ça sera adopté, je pense que ça va fortement diminuer. Alors sur le principe, pour nous, sur les années qui viennent, c'est pas des sommes importantes, mais ils veulent faire un rappel sur les années précédentes, et c'est là où, à mon avis, on sera pas d'accord. Voilà. Alors donc, c'est pour le... Donc pour revoter le montant des AC qui sont inchangés à 634 170 euros. Voilà, s'il y a des questions.
Oui, merci Bernard. J'ai juste une question sur la formalisation de ce vote. Si je comprends bien, donc on doit adopter le rapport de la commission d'évaluation des charges transférées. Si on prend le compte-rendu du conseil municipal du 25 novembre 2021, on avait deux points, l'adoption du rapport et l'attribution de compensation sur 2021. Et quand on prend les éléments de la page 13 du rapport, il est indiqué qu'il faut deux délibérations distinctes. Une pour les modalités de vote des AC. Les communes intéressées doivent prendre deux délibérations distinctes, une pour l'approbation du rapport de la CLECT et une pour l'attribution de l'AC. Est-ce que vous pouvez...
Ouais, je regarde. Ouais. Il me semble que la deuxième, on n'était pas concerné. J'en suis même sûr. Je vais vous retrouver le passage, je me permettrai de vous l'envoyer. Mais on n'était pas concerné.
Mais elle n'a pas bougé depuis 2021, notre AC.
Oui. Il y a deux communes, c'est pour ça qu'ils ont mis la deuxième délibération, parce qu'il y a deux communes, Bayard et
Saint-Brice,
qui, elles, ont changé. Donc c'est pour ces communes-là qu'il a été demandé une deuxième délibération.
Vous êtes certaine, parce que ça, c'est pas très clair la façon dont c'est rédigé dans...
Il y a manqué des membres intéressés. Hein.
Oui. On s'est posé la question au début de la réception des éléments.
Alors, on va passer au vote donc, de ce rapport. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Deuxième délibération, les décisions modificatives.
Alors, donc pour les décisions modificatives, donc vous savez qu'on n'a pas de budget supplémentaire, on n'a qu'un budget primitif, et donc les ajustements de fin d'année se font par délibération modificative. Donc effectivement, on a analysé les comptes au 31 août, et on les a réactualisés un petit peu à fin septembre, et on a regardé un petit peu, si vous voulez, comment on allait se situer en fin d'année. Donc, sur les charges à caractère général, je propose donc d'augmenter de 100 000 euros le montant qui avait été prévu au budget, en sachant que sur les prestations de services, on a 40 000 euros de plus qui représentent presque la totalité de la classe de neige 2024 qu'on est amené à payer avant le 31 décembre. Sur l'électricité, on avait doublé le montant et malgré ce, je pense qu'on sera plutôt à 230 000 que 200 000 euros, donc j'ai prévu 30 000 euros. Sur les coûts de maintenance, on a à peu près 10 000 euros de plus. Et sur le coût du service enfance-jeunesse, à peu près 15 000 euros de plus. Alors après, il y a des plus, il y a des moins qui interviendront d'ici la fin de l'année. Donc il est possible qu'on n'ait pas utilisé la totalité de ces 100 000 euros. Mais comme je ne veux pas refaire des délibérations modificatives d'ici la fin de l'année, je préfère prendre une marge de manœuvre. Comme ça, on est tranquille. Sur les salaires, bon, mais ce qu'on avait prévu, c'était, je pense qu'on arrivait à boucler le budget avec ce qui était prévu. Mais effectivement, comme vous l'a dit tout à l'heure, il se peut que d'ici la fin de l'année, on ait une embauche nouvelle. Donc, avec Claudine, on a dit qu'il vaudrait mieux mettre 20 000 euros, comme ça on est tranquille et on n'aura pas de problème en fin d'année. Sur les charges de gestion courante, ben, c'est un point d'ailleurs qu'on va évoquer tout à l'heure. J'ai prévu 15 000 euros de plus, c'est pour le verser au CCAS, parce qu'on est amené à verser un petit peu plus à la crèche Les Calins, donc ça on le verra tout à l'heure. Dans les charges financières, 1 600 euros, si vous vous souvenez bien, quand on avait fait l'emprunt d'un million 5 l'année dernière, on avait des frais de dossier de 1 500 euros, moi je les avais mis en frais d'acte, et Claudine les a passés en frais financiers, donc du coup, il faut, pour arriver à payer les emprunts de fin d'année, il faut rajouter 1 600 euros. Alors ensuite, on réduit légèrement le virement à la section d'investissement de 23 600 euros. Par contre, en recette de fonctionnement, sur les impôts et taxes, on est beaucoup plus large, donc j'ai pu prendre 30 000 euros. Et sur les dotations de participation idem, j'ai pu prendre 83 000 euros. En sachant que les impôts et taxes, c'est la taxe additionnelle au droit de mutation où j'avais prévu 120 000 euros et on a encaissé 150 000 euros. Et sur la CAF, j'avais prévu une somme qui est, parce que bon, j'avais calculé uniquement ce qu'on touchait par rapport à l'année 2023, et il s'avère qu'il y avait des reliquats de l'année 2022, et on a touché plus de 100 000 euros, donc on a largement plus que ce qui était prévu, donc j'ai pris de 83 000 euros. Ensuite, comme j'ai réduit le virement à la section d'investissement sur le budget investissement-recettes, je réduis le virement de 23 600, mais par contre, dans les fonds et dotations divers, on a une taxe d'aménagement qui est beaucoup plus importante que prévu, et donc j'ai pu compenser dessus les 23 600. Voilà. Question ? Pas de question ?
Des remarques ?
Des remarques, alors.
Pas de questions, mais des remarques hein, qui ont été déjà faites en commission finance. Donc, je vais revenir rapidement dessus. Hein. C'est cette grosse inquiétude sur l'augmentation des charges à caractère général. Hein. Mais on en a déjà parlé, mais on est depuis 2020 à plus 63%. Donc, là, on rajoute 100 000 euros pour boucler l'année. Ensuite, les charges de personnel, si j'ai une question. Vous comptabilisez 20 000 euros de plus par rapport au BP. Ce que je voulais savoir, c'est techniquement, par rapport au déversement de la paye, est-ce que l'embauche d'un agent on est au 12 octobre, donc disons début novembre, est-ce que cette embauche doit être indiquée dans le budget de cette année ou alors avec le décalage du déversement de la paye, être plutôt sur 2024 ?
Il n'y a pas de décalage de paye, hein. Les salaires sont payés bien avant la fin du mois. Donc il n'y a jamais décalage hein, chez nous. Hein. C'est-à-dire que le mois de décembre est payé en décembre. Hein, donc il n'y a pas de décalage. Il n'y a aucun décalage. Dans les entreprises, ça peut se lever, mais pas dans les collectivités. En fait, Claudine donne les salaires parce qu'au milieu du mois, elle les fait en avance. Elle n'attend pas la fin du mois pour les faire.
Oui, il arrive mais ça peut être une avance et pas être comptabilisé dans le budget de l'année. C'est pour ça, c'était juste ce décalage à ce niveau-là.
Oui, les bulletins de salaire sont faits normalement. Hein.
Ok. Et puis on aura des remarques sur la CAS, mais sur le point suivant.
Bon, par contre, il est certain que les charges à caractère général ont augmenté. C'est l'inflation, hein, parce qu'on n'a pas créé de charges nouvelles. Mais par exemple, l'électricité, vous vous rendez compte qu'on est passé de 100 000 à 230 000 euros. Hein. Et j'espère que les panneaux photovoltaïques qu'on a mis ici et aux écoles vont nous permettre de faire des économies substantielles. Voilà, hein, pour l'année prochaine.
Après, juste une dernière toute petite remarque sur la lisibilité du budget. C'est vrai qu'on n'arrive pas à voir comment est ventilé dans les différentes catégories, mais on en a déjà parlé en commission. Comment sont ventilés notamment les frais de bouche qui apparaissent sur plusieurs sections différentes quand on avait analysé ligne par ligne en commission financière. Donc si on pouvait avoir quelque chose d'un peu plus analytique, oui. Je sais que c'est au moment de la rentrée des données dans le logiciel, mais pour nous c'est un peu compliqué d'arriver à suivre.
On va nettement améliorer ça, et en plus bon, vous aurez quand même la présentation fonctionnelle hein, qui va pouvoir vous permettre d'avoir un coût par structure, les écoles, etc. Là, ça a été fait de façon assez précise cette année au niveau de l'analytique, et on va, avec M. Saïs, se pencher là-dessus très sérieusement pour pouvoir, et on a déjà commencé, pour pouvoir effectivement faire en sorte que les imputations soient beaucoup mieux faites que ce qu'elles étaient faites jusqu'à maintenant. Voilà.
On va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors, le troisième point, c'est le complément de versement au budget du CCAS.
Alors, là-dessus, on en a déjà parlé. En fait, on a été sollicité par la crèche Étalin, qui nous a présenté des comptes extrêmement déficitaires et qui nous a mis devant le fait accompli en nous disant ben, « Écoutez, nous, si vous ne nous aidez pas davantage, eh bien, on arrête. » Donc, on a fait plusieurs réunions avec, bon, c'est dommage que Marie-Hélène ne soit pas là, parce que c'est plutôt elle qui s'en occupe, mais avec la PMI, avec la CAF, avec les associations, avec les crèches, et on s'est posé beaucoup de questions, on leur a dit aussi, hein, en leur disant que nous, on pensait que quand même il fallait qu'ils revoient la structure administrative, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus gros salaires à cette crèche, et que nous, à notre avis, il y avait une personne, au moins une personne de trop. Donc, on a l'Assemblée Générale très prochainement. Ils nous ont fait passer leur compte, donc je suis en train de les regarder de très près, et je crois qu'on va mettre un peu les points sur les i à la prochaine Assemblée. Parce qu'on ne peut pas accepter, si vous voulez, que chaque fois d'augmenter, parce qu'on ne sait pas où on va. Là, hein. Là, on est passé, on est aujourd'hui à 65 000 euros d'aide, et ils touchent la totalité de l'aide de la CAF. Donc, ça commence à faire beaucoup. Mais aujourd'hui, on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, ils ne pouvaient plus payer leur salaire. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que, pour encore cette année, on va leur verser ces 15 000 euros supplémentaires, mais je pense qu'il faudra trouver des solutions pour l'avenir. Voilà. Après, on ne peut pas fermer la crèche, hein, ce n'est pas possible. Hein. C'est quand même un service qui est rendu à la population qui est très important. Il s'agit d'enfants, hein, qui ont besoin d'être gardés. Et donc, mais il faut qu'on regarde vraiment au fond avec la crèche pour voir si vraiment on ne peut pas trouver une solution au niveau de ce personnel. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, on est amené à leur verser ces 15 000 euros au CCAS qui va les verser à la crèche Fécamp. Voilà, puisque vous savez que Bernard a changé de façon de procéder.
Oui, je voudrais faire une remarque. Effectivement, lors de la dernière réunion du CCAS, nous avons eu des interventions importantes, hein, on va dire, pour ne pas dire autre chose, concernant cette nouvelle subvention. Nous avons demandé, je crois que tous ceux qui étaient présents étaient d'accord, que soit mis en place un groupe de travail pour discuter du problème des crèches et des subventions qui sont attribuées aujourd'hui, qui sont vraiment disparates d'abord suivant les crèches, hein, puisque une crèche ne touche rien, ne demande rien, ne touche rien, l'autre touche 6 000 euros et la dernière touche, comme tu viens de le dire, 65 000 euros. D'accord. Je rappelle que la crèche qui touche 6 000 euros accueille 10 enfants, celle qui touche, qui reçoit 65 000 euros en accueille 30. D'accord. Donc au total, sur Montferrier, nous accueillons 50 enfants, en gros, de 0 à 4 ans, 4-5 ans, et que, selon les derniers chiffres, on a à peu près 150 enfants de cet âge sur la commune. Donc on a quand même... disons, une carence forte pour ce qui concerne les crèches, d'autant plus qu'il y a peu de personnes qui accueillent les enfants chez une, on appelle cela des assistantes, c'est ça. Je crois qu'elle avait 3, Mme Cabas nous a dit qu'elle avait 3 aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a vraiment un problème, effectivement, concernant les crèches et l'accueil des jeunes enfants, et donc ce groupe de travail pourrait essayer d'abord de travailler pour voir comment on pourrait éventuellement avoir d'autres crèches, créer d'autres places à crèches, et également travailler sur les subventions qui bon, nous paraissent quand même relativement disparates, même parce que la crèche, pour rappeler, la crèche des Galets reçoit quand même une part importante, hein, 65 000 euros, mais en plus elle a une maison, hein, une crèche qui est donnée par la commune, d'accord, sans loyer. Elle ne paie pas l'eau, hein, elle paie l'électricité seulement. Donc quand même, c'est beaucoup. Alors c'est normal, hein, il faut qu'il y ait une crèche sur la commune. Mais je pense que là, il y a un travail qui doit être mené pour que les choses soient menées avec plus de rigueur, disons, aujourd'hui. Hein, parce que là, il semble qu'il y ait des dérapages qui sont peut-être limites. Donc tu l'as souligné tout à l'heure, peut-être au niveau du personnel notamment, de direction, hein, à la crèche des Calais. Voilà. Bon, voilà. Donc, on compte sur ce groupe de travail mené sur petite enfance, crèche, etc. Merci.
D'accord sur le groupe de travail. On a déjà demandé, ça fait un moment, mais je n'aimerais pas que passe auprès de nos concitoyens des informations qui sont erronées parce que ces trois crèches n'ont pas du tout le même statut, donc ne sont, les contraintes qui leur sont imposées ne sont pas du tout les mêmes, ce qui justifie des différences de montant de budget. Alors qu'après, ça se soit mal géré, j'en sais rien. Là, maintenant, moi, je n'ai plus aucune information. Donc, avant, je pouvais dire, maintenant, je ne sais plus. J'ai mon avis sur le licenciement, enfin, la fin de le départ de la dernière directrice de la crèche, mais je ne prenais pas de position publique là-dessus. Mais par contre, je pense qu'il faut quand même qu'on soit conscient de ça, que ce sont trois structures qui ont des types de fonctionnement complètement différents.
Donc pour rebondir sur le groupe de travail tout de suite, parce que ça sera fait, puisque c'est votre question, vous relancez le groupe de travail, on va le mettre en place, c'est sûr, il n'y a aucun souci avec ça. Madame Cabas a eu quelques problèmes personnel, et donc bon, ça traîne un petit peu, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème. Début novembre, on mettra en place ce groupe et on travaillera sur les crèches, sachant que Babyhome ne sera pas du tout dans ces crèches-là, puisque c'est une crèche privée. Donc elle a zéro en subvention parce que c'est une crèche privée. Hein, donc faut pas dire il y a trois niveaux de subventions différents. Non, il y a la crèche Babyhome étant privée, il n'y a pas de subvention, c'est normal. Et ensuite, on a les deux autres crèches qui sont, comme l'a dit M. Bourrilly, complètement différentes, donc de types différents. Donc voilà. Donc il y aura un groupe de travail qui se mettra en place en novembre et on pourra réfléchir dessus et on pourra en même temps vous tenir au courant de l'AG qu'on aura eu, parce que je pense que d'ici c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, donc on vous tiendra au courant et on pourra en discuter.
Donc moi je suis d'accord, mais vous me dites les trois crèches sont différentes, moi je vais... Ça, justement, le groupe de travail va travailler là-dessus, en quoi elles sont différentes, pourquoi elles sont... Tu vois, voilà, c'est sur cette clarté moi, que je veux. Je ne reproche rien à personne, je ne connais pas le problème sur le fond. Je me rends compte que bon, une crèche touche beaucoup, l'autre touche peu, et la troisième ne touche rien.
Voilà. C'est parce que la
touche rien, excusez-moi, c'est une entreprise.
Le coût pour les enfants est bien plus important qu'à la crèche des câlins ou à la crèche 1, 2, 3 soleils. Donc après, les parents font le choix, c'est une crèche Montessori, enfin, etc., etc. Donc je pense que c'est une crèche qui fonctionne très bien toute seule avec ce qu'elle... c'est une entreprise. Quoi.
Oui, juste un point supplémentaire quand même. L'accueil des jeunes enfants ne se fait pas uniquement dans les crèches, hein. Il y a les assistantes maternelles.
Il y a
éventuellement des réseaux d'assistantes maternelles qu'on peut mettre en œuvre. Il y a toute une série de processus qui existent. Et le groupe de travail, à mon avis, doit se pencher sur la totalité de ces solutions qui existent. Et peut-être qu'il faudra qu'on aborde préférentiellement la crèche parce qu'il y a un impact financier, y compris pour la préparation du budget de l'année prochaine pour la commune. Mais c'est bien l'ensemble des systèmes de garde d'enfants et de gestion de la petite enfance qu'il faut qu'on regarde sur la commune.
Le réseau d'assistance maternelle, ce n'est pas un réseau qui permet de garder des enfants. Le réseau d'assistante maternelle, c'est un réseau qui permet aux assistantes maternelles de se retrouver dans un lieu pour pouvoir échanger sur les problématiques. Donc moi, j'y ai pensé à la RAM. On était déjà au début du mandat, je m'étais dit on va faire un RAM à Montferrier. Et puis finalement, on est confronté toujours au même problème, le problème du local. Et donc, il y a un RAM à Prades, et nos assistantes maternelles peuvent aller au RAM à Prades, ou à Saint-Génis même.
Non, mais je veux dire, le RAM, ce n'est effectivement pas un endroit où les enfants sont regardés, mais c'est un endroit où on met en synergie les assistantes maternelles, qui trouvent un lieu pour pouvoir faire un certain nombre d'activités, qui permet à certaines assistantes maternelles de prendre un enfant de plus dans certaines conditions. Enfin, voilà, il y a un accompagnement aux assistantes maternelles, qui aujourd'hui ne coûte rien à la commune, soyons francs, alors que la crèche coûte. Donc quelque part, l'incitation, je dirais, à la présence d'assistantes maternelles sur la commune pour garder les enfants de la commune peut être quelque chose sur lequel le groupe de travail doit, à mon avis, se mobiliser, parce que c'est des solutions qui sont différentes, qui satisfont un certain nombre de parents et qui offrent des services tout à fait acceptables. Donc voilà, il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants qui sont gardés chez des assistantes maternelles, soit sur la commune, soit sur d'autres communes.
Heureusement qu'à Montferry, il y a beaucoup de grands-parents aussi. qui gardent leurs petits-enfants, heureusement. Mais bon, les assistantes maternelles, après nous, on ne peut pas, obliger les personnes à être assistantes maternelles. Là, on a une personne, une dame qui voudrait être assistante maternelle, qui a déjà vu plusieurs endroits où elle pourrait garder des enfants, et à chaque fois, ça coince. Et elle n'avance pas, alors qu'elle pourrait garder 10 enfants peut-être. Non, 5 enfants. Donc, ça, 5 enfants maximum. Donc, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, les assistantes maternelles, nous, on aura beau faire tout ce qu'on veut. Si on n'a pas de personnes qui veulent être assistantes maternelles ou assistants maternels, tu vois, ça sera compliqué, quoi.
Je suis d'accord. C'est pas, je veux dire, mais on peut accompagner les initiatives. On peut leur offrir des services additionnels qui permettent de couvrir d'autres choses. Donc dans notre esprit, le groupe Petite Enfance ne doit pas se limiter aux seules crèches, mais bien à l'ensemble des solutions qui existent aujourd'hui pour la garde des enfants.
Ok. Donc sur le complément de versement des 15 000 euros au CCAS, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors, la quatrième délibération concerne la rémunération des études surveillées. Donc là, c'est comme chaque année. Chaque année, nous avons des professeurs de l'école maternelle et de l'école élémentaire qui se proposent pour faire les études surveillées. Donc les tableaux sont remis à jour chaque année. Donc là, comme vous pouvez le voir, en maternelle, il n'y a aucun changement par rapport à l'année dernière. En élémentaire, on a l'arrivée de 3 nouveaux enseignants. Donc Madame Allure aussi, Monsieur Colomb et Madame Dubois, qui sont d'accord pour assurer des études surveillées. Donc le tarif est donné par l'éducation nationale et c'est en fonction du classement. Donc nous n'en avons qu'une qui est hors classe, c'est la directrice de l'école élémentaire qui est présente depuis l'année dernière. Donc là, voilà, nous sommes obligés de revoter chaque année cette rémunération des études surveillées parce que les enseignants changent chaque année. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Donc, nous allons passer au...